Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niyungeko.
Nous sommes samedi 25 juin 2022. Merci d'être avec nous sur la radio Nzamba Gateka Kawe. Bienvenue, mesdames, messieurs, auditrices, auditeurs de la radio, dans ce journal en français, dont voici d'abord les principales articulations. Les habitants de la province Lumonge sont mécontents. Ils dénoncent la mauvaise gestion des fonds destinés à la construction du bâtiment qui servira de bureau provincial. Des commerçants de la province Makamba s'insurgent contre ce qu'ils appellent le favoritisme dans l'octroi de l'autorisation de vendre le sucre dans cette province. Ils disent que ceux des militants du CNDD-FDD peuvent commercialiser ce produit. Et enfin, les réfugiés burundais du camp Douta en Tanzanie vivent la peur au ventre. Le 27 juillet de cette année, les autorités tanzaniennes prévoient de faire une enquête pour savoir pourquoi ces réfugiés ne veulent pas rentrer chez eux. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue, bonsoir à tous.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Les habitants de la province Lumonge s'insurgent contre la mauvaise gestion des fonds destinés à la construction du bureau du gouverneur de province. Ce qui inquiète la population contributeur dans la construction de ce bâtiment, c'est qu'il compte aujourd'hui un seul niveau alors que les bureaux étaient initialement conçus pour une maison à 3 étages. Ils réclament de la transparence dans la gestion des cotisations de la population de Lumonge. La question a été soumise au président de la République, c'était ce vendredi. On fait le point avec Eddy-Claude Nininahaskwe.
Les activités de construction de ce bâtiment qui abritera les bureaux provinciaux ont débuté en 2019. Des sources à Lumonge parlent des activités qui n'ont jamais évolué depuis le début des travaux. Il était prévu que le bâtiment soit en étage de 3 niveaux. Mais à l'état actuel, le bâtiment n'a qu'un seul niveau. Des inquiétudes planent chez les habitants de Lumonge. Des fonds ont été collectés au sein de la population active comme dans les associations sans but lucratif pour faire avancer les travaux. La question a été soumise au président de la République lors de sa descente ce vendredi en province Lumonge. Évariste Ndayishimiye a pris en main ce dossier.
S'agissant des cotisations de la population dans la construction de la province, là aussi j'ai appris qu'il y a des zones d'ombre. Je vais entrer en contact avec l'évêque pour lui demander les raisons de sa démission dans le comité de gestion. Dans cette commission, on doit discuter comment les contributions de la population ont été utilisées, parce que tous ces fonds doivent arriver à destination. Aucune fuite ne doit être tolérée. Et donc, si quelqu'un décide de quitter la commission, ce n'est pas qu'il n'aime pas le progrès, c'est qu'il y a plutôt d'autres raisons.
Le détournement de fonds alloués à la construction des fonds destinés à la construction du bureau provincial de Lumonge serait à l'origine de la démission du représentant de l'église anglicane de Lumonge au sein de l'équipe en charge du suivi des activités. Certains noms ont été cités par le chef de l'État comme faisant partie d'une équipe complice dans la mauvaise gestion de la province de Lumonge. Il s'agit de Japhet Niyitoulonsa, un commerçant du chef de lieu de la province et Célestin Nitanga, un député élu dans la circonscription de Lumonge. Nos sources sur place indiquent que ces hommes auraient collaboré avec l'actuel gouverneur de Lumonge pour détourner les cotisations de la population et construire une autre maison privée en étage située au centre libé de Lumonge.
Restons au sud du pays pour parler de cette grogne chez les commerçants du sucre de la province de Makamba. Certains de ces commerçants se sont vus rayés de la liste de ceux qui doivent vendre ce produit. Les commerçants militants du CNDD-FDD sont favorisés et cela mécontente les autres. Ils dénoncent aussi une distribution discriminatoire. Les membres du parti au pouvoir étant les seuls à être servis, ces commerçants demandent aux responsables administratifs de mettre fin à cette injustice. Le point avec Pierre Garung.
Les informations en provenance de cette province indiquent que plusieurs militants du CNDD-FDD qui ont récemment commencé ce commerce reçoivent au moins 2 sacs de sucre mais il distribue moins de la moitié d'un sac. Selon le témoignage d'un des habitants de cette province, le riz est vendu à 250 000 francs burundais par sac et au détail, il s'achète à 6 000 francs le kilo. Le sucre vendu sur une cuillère à soupe qui s'achetait à 100 francs est passé entre 300 et 500 francs burundais si par chance on en trouve. On écoute son témoignage.
Les commerçants du sucre du chef-lieu de la province Makamba ont été exclus de la liste de ceux qui bénéficient du sucre pour être remplacés par les militants du CNDD-FDD. Les militants du CNDD-FDD, dès lors, il s'est présenté une pénurie du sucre dans cette province car ces nouveaux commerçants vendent ce produit en désordre et certains cassent même les sacs dans le but de spéculer. Nous déplorons cette pratique et demandons que les détails du sucre se fassent en présence des administratifs à la base pour vérifier que le sucre donné à ces commerçants soit distribué aux citoyens des environs car ceux qui ont des enfants manquent souvent de sucre pour la la bouillie, c'est la même chose pour les malades qui ont besoin de ce produit pour sa consommation.
Il recommande aux administratifs de respecter l'ancienne liste et de privilégier ceux qui ont des numéros d'identification fiscale pour couper court à ces spéculations.
Nous sommes fatigués, il faut dépolitiser la vente du sucre pour que les sacs destinés à la vente soient distribués aux anciens commerçants qui figuraient sur la liste et qui bénéficient d'un registre de commerce. C'est dans le but de permettre à toute la population de bénéficier de ce produit en cas de besoin sans aucune considération.
La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, a contacté le gouverneur de la province Makamba pour qu'il nous éclaire sur la situation, mais sans succès.
Merci Pierre. Il y a une enquête qui inquiète les réfugiés burundais en Tanzanie. Elle est prévue à partir du 27 juillet prochain au camp de Nuta, selon des sources sur place. L'un des objectifs de cette enquête, qui sera lancée par le Haut Commissariat pour les réfugiés et les autorités tanzaniennes, est de récolter les informations sur les raisons qui poussent ces réfugiés à ne pas retourner au Burundi. Tous les réfugiés ne feront pas objet de l'enquête et c'est cela qui les préoccupe, les précisions avec Trifine Kanua.
Cette enquête a été annoncée jeudi dernier lors d'une réunion organisée par le ACR à l'intention des chefs de zone en Douta. Selon les réfugiés, les résultats de cette enquête, qui ne sera réalisée que sur 20% des réfugiés, pourraient ne pas refléter la réalité. Et c'est là où le bas blesse.
Les gens qui seront interrogés, est-ce que ce ne sont pas des personnes qui sont déjà sur la liste des personnes qui veulent rentrer au pays? La deuxième question, est-ce que ce ne sont pas des personnes qui ont été préparées à l'avance et qui donneront des réponses qui satisferont les autorités tanzaniennes? Surtout qu'ils nous pressent toujours de rentrer.
Selon ces mêmes réfugiés, si leur sort dépend des résultats de cette enquête, il faut qu'elle soit objective.
Nous demandons à faire aux autorités d'être objectifs dans cette enquête parce qu'ils nous disent que c'est à partir de cette enquête qu'ils vont prendre des décisions. Il faut que cette enquête ne va pas à l'encontre des intérêts des réfugiés. On a vraiment peur qu'après cette enquête, ils nous diront que c'est nous qui avons choisi de partir.
A préciser que cette enquête se terminera le 11 juillet prochain. La radio Inzamba n'a pas pu joindre par téléphone le responsable du camp de Douta pour qu'il réponde à ces préoccupations des réfugiés. Pour rappel, le 5 juin dernier, les autorités tanzaniennes ont informé les réfugiés burundais vivant dans les camps de Douta et Nyarugusu qu'après une année, les réfugiés qui ne seront pas rentrés n'auront plus le droit de rester dans ce pays.
Dans la suite de cette édition, la faible production de l'énergie est l'un des facteurs qui empêche les hommes d'affaires à venir investir au Burundi. C'est ce qu'a expliqué avant-hier jeudi le ministre de l'Énergie et de l'Industrie, Abraham Wizeye. C'était lors de la séance des questions orales à l'Assemblée nationale. Il a dit en outre que le pays pourra faire recours à l'énergie nucléaire. Je vous propose de l'écouter.
Vous allez où je vous parle, les trois cuisa, mégawatt, mirongo, umunan, azoturashikana.
Au Burundi, nous n'avons pas la capacité de produire de mégawatts. Et pour approcher ces 80 mégawatts, il y a 30 qui proviennent des centrales thermiques. Quand nous ferons la réhabilitation du réseau vétuste de Bujumbura, qui occasionne souvent des coupures d'électricité, au cas où le réseau serait bon, vous verrez que nous avons une très faible quantité d'électricité. Des industriels qui pourraient amener des investissements d'assainissement au Burundi qui ne le peuvent pas à cause du manque d'électricité. Si nous avons la chance d'avoir de l'énergie nucléaire, ça serait bon. Nous avons dit que nous avons des sources qui pourront donner une production de 1700 MW. Je vous fais savoir que même cette quantité restera insuffisante devant les investisseurs œuvrant dans le domaine industriel. Celui qui produit moins, par exemple, 10 MW, donne un tarif qui est cher par rapport à celui qui viendra produire plus d'énergie, comme 300 MW et plus. Si demain nous recevons ceux qui viendront pour l'exploitation minière qui demandent plus d'énergie, vous serez scandalisés par la faible quantité que nous produisons. Si jamais tout le pays est électrifié, vous verrez que nous avons une très faible quantité d'énergie. Il faut que nous nous attelions à la recherche de comment nous pouvons produire plus d'énergie. Le tarif diminuera. Les investisseurs viendront en compétition parce que des investisseurs, avant de venir investir dans un pays quelconque, ils demandent d'abord la situation de la production de l'énergie. Il n'y aura pas de danger quand nous allons produire de l'énergie nucléaire.
Un pays qui n'a pas assez d'énergie ne peut pas développer son économie. C'est aussi l'avis d'un chercheur et professeur à l'université de Liège, l'ingénieur Albert Sengiyumva. Il donne ici des propositions pour accroître la production de l'énergie au Burundi.
Premier chose, c'est faciliter les investisseurs dans ce domaine pour qu'ils aient beaucoup plus de facilité pour s'investir dans les projets énergétiques. S'il faut même exonérer ces projets, plus on a de l'énergie, plus on sait attirer beaucoup des industriels. Deuxième chose aussi, c'est par exemple la centrale Guegura, on peut faire des centrales en cascade, c'est-à-dire il y a une hauteur de chute de plus de 500 mètres, on peut faire minimum 3 centrales en cascade, ou bien même 5, ça dépend de comment le projet est étudié. On peut faire en cascade et ça va augmenter la capacité énergétique du Burundi. Ou bien autre chose qu'on peut faire, c'est renforcer les centrales hydroélectriques, par exemple Mogere, d'autres centrales où il y a vraiment l'ensoleillement, avec les panneaux solaires autour et qui vont injecter directement à partir de la centrale l'énergie solaire directement. Mieux qu'aller faire une centrale solaire ailleurs et puis transporter cette énergie ou bien l'injecter dans le réseau. Ça peut faciliter aussi. Autre chose qu'on peut faire, je pense qui est mieux que ce que je viens de dire, c'est faire des projets à caractère aide. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui le font, même dans la sous-région, notamment le Kenya. Ça veut dire qu'on appelle les investisseurs qui vont investir comme aide. Ils vont exploiter pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils se remboursent. Puis après, ils vont donner comme aide au pays. Et c'est après le retour d'investissement où le pays va commencer à gérer ses infrastructures. Et ça permettra qu'on ait l'énergie, on sait attirer les industriels et X temps après, ça va revenir au pays. L'avantage de ce projet à caractère d'aide, c'est que ça essaie d'être à la hauteur du pouvoir d'achat de la population de ce pays. Autre chose, c'est permettre aussi aux collectivités, notamment les zones, les communes, les provinces, ils peuvent construire à leur guise ou bien selon leur plan, une centrale ou bien produire de l'électricité dans leurs communes ou bien dans leurs zones, comme ils veulent. Et puis, c'est comme une décentralisation de la régie des eaux. Et ça permettra à ce que les collectivités peuvent s'autosuffire dans le domaine énergétique. Tout ça, il faut une volonté politique. Parce que si nos dirigeants ne s'investissent pas, on ne peut pas y arriver.
Inzamba.
Place maintenant au magazine Au cœur de la société. Le magazine aujourd'hui va se pencher sur la recherche scientifique et le pré-bourse dans l'enseignement universitaire. Josine Kazé pour les détails.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Idriya Anyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance.
La semaine dernière, nous avons parlé de certains défis évoqués au cours des récents états généraux de l'éducation, dont le manque de matériel dans les écoles et l'insuffisance de formation pour les enseignants. Notre invité était professeur Liberan Mwashiakandi. Dans la seconde partie du mini-magazine Au cœur de la société du 25 juin 2022, nous serons toujours en compagnie de cet enseignant de l'Université libre de Belgique. Soyez des nôtres. Au cours des assises de l'éducation de mi-juin, certains participants ont proposé l'augmentation des frais alloués aux prêts-bourses. Interrogé par notre confrère de la RPA, Émile Niwasumba, professeur libéral Nwachala Kandi, prône le retour de la bourse non remboursable.
Si on instaure le prêt bourse effectivement, l'État doit s'engager à trouver de l'emploi pour tous les lauréats, pour qu'ils puissent rembourser. Aujourd'hui, la majorité des lauréats des universités burundaises sont dans la rue. Les taxis moto, les taxis vélo, etc. Ce sont des universitaires. Ce sont des serveurs dans des restaurants, de petits jobs. Donc, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, ce prêt bourse, comment il est géré aujourd'hui? L'État est incapable de verser avec chaque mois, à la fin de chaque mois, ce prêt bourse. Donc, pour moi, première chose, c'est pourquoi je disais que ces assises auraient été un point de départ pour la refondation du système éducatif burundais. Pour moi, il faut purement simplement supprimer le prêt bourse, garder comme bourse, effectivement augmenter la bourse. Et d'ailleurs, c'est en contradiction avec la recommandation numéro 17. À quoi servira ce fonds? Un parent va payer de l'argent pour financer l'éducation et en même temps, on donne un prêt bourse. Donc là, il y a son fils ou sa fille s'endette. Ça n'a aucun sens. Il y a une contradiction. D'accord, il faut effectivement financer le système éducatif burundais, mais supprimer le prêt bourse, garder la bourse. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle ça pourrait motiver, encourager les Burundais à financer le système éducatif burundais. Sinon, c'est mitigé. Il faut donc leur accorder une bourse non remboursable.
Parmi les recommandations issues de ces états généraux de l'éducation figure la mise en place du Fonds national de la recherche. Qu'en pense Libéra Nwachala Kandi?
Normalement, dans le budget destiné au ministère de l'éducation et de la recherche scientifique, il y a le volet recherche. Et je sais bien qu'à l'université du Burundi, il y a même une direction de la recherche. Donc, cette direction est dotée des moyens et c'est financé par le gouvernement en principe. De deux, l'université moderne vit des financements extérieurs. C'est-à-dire quoi? L'université est organisée en faculté. Dans les facultés, il y a des centres de recherche et qui, normalement, répondent à des appels à projets, à des consultances. Aujourd'hui, au Burundi, il y a des consultances, on le sait très bien, mais aucun sou n'entre dans les de son université. Alors que les enseignants utilisent les moyens de l'université, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et parfois le papier, j'en passe. Naturellement, il faudrait revoir l'organisation de cette activité, faire en sorte qu'un certain pourcentage soit versé dans les caisses de l'État. Autrement dit, il faut que les recherches, les consultances qui sont menées au Burundi par les académiques puissent financer finalement la recherche. Qui dit recherche, il faut que les enseignants, les professeurs d'université puissent participer dans les conférences et travailler en réseau avec d'autres. Deuxièmement, il y a des organisations internationales qui lancent des appels à projets pour le monde universitaire. Je peux parler de l'Union européenne, je peux parler de l'Agence universitaire de la francophonie, je peux parler de la coopération universitaire belge et bien d'autres pays comme les Pays-Bas, les États-Unis, etc. Ce sont des opportunités justement pour financer la recherche. Et malheureusement, le Burundi est absent dans beaucoup de réseaux. Donc, autrement dit, il faut des stratégies. Il faudrait créer au ministère de l'Éducation et de la recherche scientifique une cellule qui est chargée de faire appel à projet. C'est-à-dire, tous les appels internationaux, il faut que le ministère puisse les connaître et les centraliser au ministère. Et par la suite, les partager dans les hobbies, dans les universités. Deux, il faut qu'au sein du ministère, il y ait une équipe qui est formée en matière de rédaction des projets. Pour que justement le ministère aussi puisse participer dans des programmes internationaux. Aujourd'hui, je déplore que tous les projets que vous voyez sont rédigés par des partenaires internationaux. Et ce sont ces partenaires internationaux qui reçoivent de l'argent qui était destiné pour le Burundi. Et naturellement, 40% peut-être arrive au Burundi. Le reste, ce sont des salaires de ces employés de ces organisations. Je ne citais pas des exemples. Au ministère, ils connaissent ces organisations. C'est inacceptable. D'ailleurs, l'université, quand même, doit avoir des capacités à répondre à ce genre de projet. Troisièmement, au sein de l'université publique, qui est d'ailleurs sur l'université de la France, il y a l'ENES, qui est l'université Burundi, il devrait y avoir aussi une cellule chargée de faire la veille à projet et aussi une équipe formée pour rédiger, pour répondre à des appels à projet.
Au début de la semaine prochaine, l'intégralité de l'émission en images sera diffusée sur les pages Facebook et YouTube de RPA Inzamba et Renaissance. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous étiez avec le Zinkadze. À la prochaine.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Et comme tous les samedis sur la radio Inzamba Gatekakawe, nous allons boucler ce journal par la revue de la presse avec Joséphine Jones, Nkunzimana.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Inzamba Gatekakawe. La revue de presse de ce samedi s'ouvre avec le journal SOS Média. Ce journal en ligne parle des inquiétudes de l'administration de la commune de Mukadza, où s'observe la consommation des stupéfiants par des jeunes. Dans différents quartiers de la commune de Mukadza, des jeunes drogués arrêtent et dépouillent de leurs biens les passants en complicité avec certains policiers. L'annonce a été faite par les autorités de la mairie de Bujumbura ce mercredi lors d'une réunion organisée par la mairie à l'endroit des administratifs, de la police, des représentants du secteur de l'éducation et ceux de la justice. À cette occasion, les chefs de quartier ont déploré le fait que quand ils arrêtent les vendeurs de stupéfiants, la police les garde pendant quelques temps et après ils sont relâchés. Après avoir évoqué les endroits les plus dangereux pendant la nuit, ces chefs de quartier ont demandé l'augmentation des unités de police pour sécuriser la population. Une mise en garde a été donnée contre les administratifs et les policiers qui collaborent avec les vendeurs et les consommateurs de stupéfiants. Continuons cette revue avec le journal Iwachu. Les discours blessants embrasent la société, titre le journal. Chartier Niyungeko, expert en résolution et transformation des conflits, appelle à éviter des discours blessants. Selon lui, il s'agit d'un discours préjudiciable qui peut conduire à la destruction de la personnalité de la personne. Cela peut être une menace, des insultes, du chantage et d'autres choses qui ne sont pas appréciées par les autres. C'est un message qui crée un sentiment négatif. Ce genre de discours est caractérisé par des humiliations, le dénigrement, la maltraitance verbale, etc. Ces discours sèment la haine et font perdre l'estime. Ils prônent la violence et la perte de la dignité. Ils exposent ou sont susceptibles d'exposer à la haine des membres du groupe ciblé. Comme conséquence, ces discours créent des sentiments négatifs et la méfiance. Les membres d'un groupe qui se sentent vexés, déconsidérés, dévalorisés peuvent vouloir répliquer, estimant que eux aussi ont à dire, d'où un échange de propos violents qui peuvent conduire à des tensions. Les infrastructures insuffisantes et vétustes, un calvaire dans les écoles, titre le journal Burundi Echo. À part que les écoles sont insuffisantes, la plupart d'entre elles sont dans un état de vétusté inouï. Il s'observe dans des écoles le manque de lits, de bancs pupitres, de matelas et les latrines sont insuffisantes. Selon Burundi Echo, 60% des écoles ne disposent pas des latrines suffisantes tellement que 115 élèves partagent une seule latrine. 90% n'ont ni laboratoire ni bibliothèque. Dans les écoles fondamentales, 73% des groupes pédagogiques n'ont pas de classe. Les responsables des écoles sont obligés de procéder au système de double vacation pour alléger le choc. Le ratio qui répond aux normes internationales est estimé à 50 élèves par enseignant. Au Burundi, il est plus de 100 élèves par enseignant. Pire encore, selon toujours le journal, 18 élèves partagent un même banc pupitre, alors qu'en principe, seuls deux suffisent. Clôturons cette revue par l'agence burundaise de presse. Selon l'agence, la primature burundaise appelle les opérateurs des secteurs privés et publics à octroyer des stages de premier emploi aux jeunes diplômés dans le but d'appuyer l'État dans la lutte contre le chômage. Alain Guillaume Wunyuni fait savoir qu'au Burundi, les entreprises tant privées que publiques exigent des années d'expérience professionnelle comme critère d'éligibilité. Un critère qui, par contre, selon le Premier ministre, sert de disqualification pour la plupart de ces derniers. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève la revue de presse de ce samedi. Vous étiez avec Joséphine Johnson-Zimana. Au revoir et bon week-end.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Merci Joséphine Jones, c'est par là que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci à vous tous, chers auditrices, auditeurs, pour votre fidélité. Et je vous souhaite de passer un agréable week-end chez vous et parmi les vôtres. Au revoir et à la prochaine.